Depuis 1975, tous les 8 mars, nous fêtons le droit des femmes en une journée qui se voudrait festive, mais qui rappelle surtout douloureusement qu'en termes d'égalité des droits, rien n'est encore gagné. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de femmes qui se sont battues pour un droit, le droit d'aimer un homme, mais surtout le droit d'aimer un homme plus jeune. De la flamboyante Aliénor d'Aquitaine à la tragique Gabrielle Russier, ces 20 portraits de femmes nous font découvrir ou redécouvrir des femmes vivantes, amoureuses et terriblement modernes. L'auteur, elle aussi, est une femme passionnante et passionnée qui écrit depuis 1993 des nouvelles, des contes, des romans, des biographies et pour les lecteurs de 3 à 103 ans. Nous la recevons aujourd'hui pour son livre « Elles ont aimé un homme plus jeune » paru aux éditions Glyph. Bonjour Jeannine Tesson.
Bonjour.
Jeannine, d'abord quelques mots sur vous. Vous êtes née dans les années 50 à Toulon, puis vous passez votre enfance au Maroc. Vous avez exercé de nombreux métiers, donc vous nous direz lesquels, parce que ça va de couturière à prof. Et vous publiez votre premier roman en 93, donc La Petite Cinglée, qui obtient plusieurs prix. Quel chemin vont amener cette petite fille née à Toulon, passée au Maroc, dans d'autres pays, jusqu'à l'écriture et jusqu'à la parution d'un premier livre ?
Ben, c'est le chemin de la vie, de la mienne. C'est le chemin d'une petite fille qui était empêchée de parler. Et donc, j'ai transformé l'oral en écrit. J'ai toujours, toujours à partir du moment où j'ai su écrire, je me suis confiée à la page blanche et j'ai raconté tout ce que j'avais pas le droit de raconter, toutes les questions que j'avais pas le droit de poser, je les ai couchées sur papier et donc c'est devenu pour moi un mode d'expression vital.
Ça vous a toujours accompagné dès 6-7 ans, dès les premiers temps ?
Oui, parce que la famille dans laquelle j'ai atterri, comme chacun, c'est une famille où les enfants n'avaient pas le droit de parler vraiment. La phrase que j'entendais le plus souvent, c'était « tais-toi ».
C'est lourd à porter déjà, oui, pour commencer.
Et finalement... il y a quelques années, alors que mes parents étaient encore en vie, je leur ai dit merci.
Ça m'a poussé à...
Vous m'avez donné l'écriture.
Et c'était un journal intime ? C'était des pensées, des petites poésies ?
C'était de tout, ouais. Mais pas de journal intime. Mais des textes qui me venaient et qui venaient sous une forme de plus en plus littéraire.
À l'école, vous étiez douée en français ?
Oui,
belle rédaction.
Oui, c'était surtout en ça que j'étais douée.
Quand on est enfant, il y a toujours un livre fondateur. Enfin, j'en parlais avec Caroline Fabre-Rousseau, vous connaissez. On échangeait là-dessus. Moi, c'est vrai que mon livre fondateur, c'est « Le cœur est un chasseur solitaire » de Kirsten MacCullers. Ah. Il y a eu un titre comme ça qui, enfant ou jeune fille, vous a révélé, vous a fait dire... Je veux être comme elle, je veux écrire comme elle, je veux avoir ça.
Ah oui, parce que MacCullers, c'est pas un auteur pour les... pour les enfants. Enfin. Alors, l'enfance, pour moi, c'est le club des 5. Et puis après, parce que là, vous parlez d'adolescence.
Oui.
L'adolescence, c'est tout ce qui pouvait me tomber sous la main et qui pouvait me parler de la vie. De la vie, de l'amour, du sexe, de la guerre, de tout. Voilà.
Et... Vous étiez au Maroc à l'adolescence ?
Non. J'étais revenue en France. Et donc, ça allait de l'amant de la Lady Chatterley à Sartre, à tout.
Ouais. Et il y en a un qui vous a touché comme, plus qu'un autre.
Comme si j'allais apprendre la vie dans les livres, mais c'est un... On apprend des choses, mais on n'apprend pas tout quand même dans les livres. C'est un leurre parfois.
Et quelqu'un qui vous aurait donc plus ébranlé qu'un autre, ou un texte de femme, ou je ne sais pas, parce qu'après vous avez écrit beaucoup sur les femmes.
Oui, quand j'avais lu Les mots pour le dire, ça m'avait beaucoup ébranlé, mais j'étais déjà presque adulte. Enfin, j'ai été adulte, forcée d'être adulte très tôt.
C'était Flora ou Benoît qui écrivait?
Benoît Groux. Et puis après, l'auteur qui m'a stupéfaite, littéralement, c'est William Faulkner.
D'accord.
quand j'ai découvert sa façon d'écrire, là, je suis vraiment tombée en... C'est même pas de l'admiration, quoi. Mmh. Je me suis dit, est-ce possible qu'on puisse écrire de cette façon-là ? C'était...
Voilà, ça c'est été... bien, ça vous a pas non plus arrêté pour écrire quand même ?
Non, pas du tout. Je savais que jamais j'écrirais comme ça, mais ça m'a donné une idée aussi de la liberté avec laquelle on pouvait écrire, et c'était très important. Et puis après, j'avais lu aussi Agota Christophe, Le Grand Cahier, et là, ça m'a inspirée pour mon premier livre. Enfin, le style, parce qu'elle écrit, c'est une écriture qu'on appelle au couteau. Donc, elle dit des choses terribles, mais de façon brève, sans s'étaler. Et moi, je me suis dit, si je dois parler de mon enfance, il faut que je réussisse à écrire comme ça.
C'est une écriture qu'on retrouve chez Marguerite Duras aussi.
Voilà, voilà.
Ouais, sauf qu'elle, elle finit pas ses phrases, mais bon, elle va jusqu'au bout, elle finit pas ses phrases. C'est vous qui le mettez dans votre livre, ça, qu'elle finit pas ses phrases. Mais c'est vrai,
oui,
c'est vrai,
oui.
ça m'a toujours touchée, parce que bon, c'est un personnage qui me touche beaucoup d'une façon générale, mais oui. C'est vrai que des phrases courtes, précises, des champs lexicaux tout petits, et puis oui. Des phrases qui, des fois, ne se terminent pas. Et c'est souvent des auteurs étrangers, il y a des auteurs français qui vous ont plus marqué, parce que c'est vrai que la littérature américaine est quand même...
Pour moi, la littérature, c'est un tout. C'est comme je dis aux enfants que je rencontre, c'est la caverne d'Ali Baba et ça regorge de trésors et il faut piocher dedans, c'est tout.
Et qu'est-ce qui a fait la bascule qu'en 93 vous décidez de ne plus garder ça pour vous, mais de le partager avec les lecteurs, parce que c'est une chose d'écrire pour soi et tout d'un coup de dire, je vais me confronter au regard de l'autre.
J'avais écrit pas mal de nouvelles, pour moi toujours, que je cachais. J'ai toujours écrit en secret jusqu'en 1993. Personne chez moi ne savait que j'écrivais. Et je me suis trouvée au chômage pendant 8 mois. Et là, j'ai mis ces nouvelles au propre et je les ai envoyées chez des éditeurs. J'ai reçu 30 réponses négatives. Dont une difficile. Réponse de Monsieur Gallimard, quand même, qui avait pris la peine de me répondre, et je l'en remercie.
Négative mais construite, étayée.
Voilà, oui, en me disant, Madame, la nouvelle ne souffre que la perfection, et vous en êtes encore loin. Et ça, c'est le déclic qui m'a fait comprendre ce que c'était qu'écrire. Écrire, c'est pas seulement laisser aller son imagination, c'est travailler. Et après ça, j'ai écrit ce qu'on appelle mon premier roman, qui est une espèce de truc qui...
Oh bah non, faut pas en parler comme ça.
Non, mais c'est pas un récit. C'est un récit, et c'est pas vraiment un roman, quoi. C'est quelque chose d'un peu hybride.
Et qui était quel thème ?
La Petite Cinglée, ouais. qui est un livre autobiographique en réalité, mais dans lequel je n'emploie pas la première personne. Je parle de la petite fille. Ça aussi, ça fait très Duras.
Oui, hein. Tout à fait. Tout l'amant, c'est comme ça.
Hein. Voilà. Et donc, parce que moi, j'avais plus de 40 ans déjà quand j'ai commencé mon premier roman. Et la petite fille, elle était bien loin derrière moi. Mm-hmm. Donc,
toujours un peu en nous quand même.
Bon. Oui, bien sûr, elle était en moi, mais je ne pouvais pas dire « je ». C'était périmé, là. Et donc, je me suis mise à écrire. Et donc, j'ai écrit pendant un an, j'ai écrit ce texte que j'ai ciselé, que j'ai travaillé, que j'ai poncé. Comme... et quand ça a été édité, donc oui, j'ai eu des prix parce que je pense que c'était un vrai travail d'écriture.
C'était vraiment... au plus fin de ce que vous pouviez écrire.
Exactement.
C'est l'histoire de quoi ? C'est l'histoire d'une jeune fille, d'une enfant d'une...
Non, c'est une petite fille qui a entre 7 et 9 ans. Ça s'appelle La Petite Cinglée. Et c'est sans que je le réalise au départ, je mets dans ce texte tout ce qui a cabossé mon enfance.
Ça a été un exercice salutaire ? Vous avez sorti beaucoup de choses ?
C'est un exercice qui a été le cadeau d'une psychanalyse.
D'accord.
C'est-à-dire, mais comment dire, c'est la psychanalyse qui m'a offert de laisser sortir toutes ces... J'ai eu l'impression d'être comme un marécage avec des bulles qui montaient à la surface, et chaque bulle, c'était un texte. Et j'ai eu tout un tas de textes en désordre, et qu'après, j'ai ordonné, et j'en ai fait ce...
Il est toujours édité ?
Non, moi je l'ai réédité personnellement, mais mm-hmm. je vous le...
Ah oui, ça m'intéresserait
ouais,
beaucoup.
Ouais. Ouais. Ouais.
Il y a des biographies aussi, on parlait en off d'une biographie de Germaine Tillion.
Oui, mm. oui, j'ai écrit une biographie de Germaine Tillion pour les adolescents, mais elle va être rééditée en direction des adultes maintenant. Parce que... Voilà. Et...
Vous êtes beaucoup traduite aussi ? J'ai vu,
des
pays Espagne, Corée, des pays probables.
Oui.
Qui est-ce qui est venu vous chercher pour traduire tout ça ? C'est des rencontres ?
Là, ce sont surtout mes livres pour la jeunesse qui sont traduits parce qu'il y a des accords entre les éditeurs. Et par exemple, la Corée, la Chine cherchent beaucoup de textes en français. De textes chez les éditeurs français qui sont quand même réputés. J'ai des livres qui sont traduits en italien, pas mal, en grec, et maintenant j'ai la joie de voir un de mes livres, et il va y en avoir d'autres qui vont être traduits en arabe.
D'accord.
Oui.
Et des livres d'enfants aussi ?
Oui, des livres pour la jeunesse.
Qu'est-ce qui vous a amené ? C'est un univers particulier. Enfin, je connais bien Véronique Cauchy, qui est une auteure pour jeunesse dans le coin. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire pour les enfants ? Parce que c'est un univers quand même spécial. Enfin,
Moi, j'ai toujours côtoyé les enfants.
Les enfants. Il y a des métiers qui vous avaient amené à les côtoyer ?
Oui. J'étais enseignante, j'ai été clown, j'avais une troupe de clowns enfants, et même quand j'avais pas de travail, je réunissais les enfants du quartier pour faire des bricolages, pour faire des choses. Je pouvais pas me passer du rapport avec les enfants.
Parce qu'il y en a beaucoup des livres pour enfants. Hein. J'ouvre le livre.
Oui, je crois que j'arrive à 25 livres pour la jeunesse.
Et ils sont distribués tous parce que vous êtes beaucoup édité par Chèvrefeuille Étoilé. Les livres pour enfants, c'est un peu plusieurs maisons d'édition.
Non, les livres d'enfants, c'est plutôt Cyros, Actes Sud, Bayard, Le Seuil, enfin
des grandes
Gallimard,
maisons d'édition qui viennent vous chercher. Mais écoutez, on va passer une petite pause musicale avant de rentrer plus avant dans le livre et de raconter donc le portrait de toutes ces femmes qui ont aimé des hommes plus jeunes. Vous avez choisi Rime féminine de Juliette.
Oui.
Pourquoi ce choix ? Alors, vous m'avez dit, vous verrez Nathalie, vous comprendrez tout de suite.
Oui, non, je préfère ne rien expliquer, ça s'explique tout seul.
Alors, on va écouter.
Dans un corps vide, entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine, en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mademoiselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore colombe ou rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bienheureux trépas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît, Juliette Drouet, la signore, ou la grande Julie. Voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, la farouche Isadora Duncan,
pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les Cervantes, Loïs la paix, ou Louandre à Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne aux métempsychoses, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Miss Ringuette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loï Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. Oui, tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire. La Yourcenar, Sarah Bernhardt, ou la très sage Simone de Beauvoir. Une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or. La Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline Desbordes Valmore. Les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille. Sylvia Bataille, Anna de Noailles, camarade Alexandra Kollontai. Et les agitatrices de bouche, brandissant l'espoir et la gouge, Hollande, bouge, Rosa la Rouge, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame, Donia ou Miss Compariotis, ou les Dacis, Angela et Maître Davis. Le train du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Manès, et l'empoisonneuse Roccia Lupès. Enfin j'ai pour être sincère du goût pour les belles arrangères, Yvette Guilbert, Claire Bretacher, j'irai même jusqu'à Anne Sinclair. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat, en attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule, ou que les anges me fassent la fête. Permettez une ultime requête, faites-la renaître votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en Éponine, en Clémentine, en Malgamalika ou Marilyn. Et si votre astrale cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine, en libertine, en bourgandine. Tiens, en Juliette Nourédine.
Eh bien, nous sommes toujours sur FM+, avec Jeanne Tesson pour son livre « Elles ont aimé un homme plus jeune ». Paru aux éditions Glyph, nous venons d'entendre Juliette, donc j'ai bien compris pourquoi vous avez choisi ce titre-là. Mais je le réécouterai mieux, parce que je crois que les paroles sont très subtiles et que c'est aussi un portrait qu'elle fait d'elle-même à la fin. J'aimerais lire les premières lignes, plutôt que pages du livre, pour expliquer vraiment à nos auditeurs le sujet, quoique le titre porte le sujet. Ils arrivent, main dans la main. Ils parlent tout bas, s'arrêtent, entrent en riant dans le restaurant. Il la tient par la taille. Il se dirige vers une table. Debout, face à face, ils échangent un regard où passe la connivence, le plaisir d'être ensemble. Une joie simple et intense, très charnelle, une harmonie évidente. Élégante. Elle est de celles que l'on classe parmi les femmes mûres, sans pouvoir préciser son âge. Elle est séduisante. Elle a certainement de l'argent, du talent. On dit même qu'elle a eu et qu'elle a une vie sexuelle explosive. Lui est plus jeune, peut-être même beaucoup plus jeune qu'elle. regardé par les sociologues comme un marqueur de l'égalité des sexes, jugé encore avec ironie, assaisonné d'une bonne dose de misogynie, le couple dont la femme est plus âgée que l'homme, s'il est plus répandu qu'autrefois parce que les femmes occidentales sont plus libres, ce phénomène dit de société n'a rien de nouveau. Donc, ce phénomène va nous emmener la première, le premier portrait que vous allez tirer, c'est celui d'Aliénor d'Aquitaine.
Oui.
Reine détestée en France. Et il y a eu beaucoup de choses très méchantes sur Aliénor d'Aquitaine. Il y avait les deux mauvaises reines, c'était Aliénor et Isabeau de Bavière. Alors, je ne sais pas si Isabeau s'est aussi tapé des...
Mais elle a été quand même réhabilitée par Laurence Pernoud.
Heureusement.
Aliénor d'Aquitaine.
Ouais, heureusement,
oui,
heureusement.
Qui en a fait un portrait magnifique. Oui.
Donc amoureuse de qui, elle?
Alors elle est amoureuse d'Henri Plantagenet. C'est un amour assez fulgurant parce qu'elle le voit une fois.
Et elle est très belle.
Elle est belle et surtout elle ne s'entend plus avec son mari, le roi de France, qui est un bigot et avec qui elle n'a eu que des filles et qui le lui reproche. Et donc quand elle demande, ou plutôt quand elle exige le divorce, ce qui est quand même révolutionnaire à l'époque, il est bien obligé de le lui accorder. Donc elle répudie son mari d'une certaine façon. C'est une femme...
Tout à fait, oui, c'est vraiment ça.
Extraordinaire. Et puis elle épouse Henri Plantagenet, avec lequel elle va avoir des années de bonheur et beaucoup d'enfants, et dont beaucoup de fils.
Donc là, les célèbres Richard.
Oui, voilà, Richard Cœur de Lion.
Et Jean
Santerre, le
traître. Et on arrive à Robin des Bois.
Oui.
Ces profils, vous les mettez, vous les rassemblez, ces 20 femmes. Alors, il y a les fascinantes, les initiatrices, les égales, les collectionneuses, les tragiques. Bon, ce qui les réunit toutes, c'est que ce sont toutes des amoureuses. Mais pourquoi avoir fait ce choix, comme ça, de les rassembler?
Parce que il y a quand même une différence entre les initiatrices et les fascinantes et les égales. Par exemple, les initiatrices sont des femmes qui se sont vouées à un jeune homme. Les fascinantes, elles, se sont vouées à elles-mêmes et à leur œuvre. Les égales, eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Ouais.
Pas trop de hiérarchie. Les collectionneuses, elles ont eu un grand nombre de jeunes hommes.
Et les tragiques.
Voilà. Et les tragiques, malheureusement...
Ça
s'est pas bien fini pour différentes raisons.
Les fascinantes, donc on a parlé d'Aliénor, il y a Diane de Poitiers avec les Henri et les...
Hein, oui.
Suzanne Valadon, dont vous faites un portrait, je trouve extrêmement tendre et très réhabilitateur de la personnalité de Suzanne Valadon, qu'on a souvent dépeint en espèce de mère hystérique
qui enfermait
ce pauvre Utrio, alors que
oui.
Bon...
Alors que Utrio, c'était malheureusement un alcoolique. Et que si elle... Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle l'a eu très jeune. C'est un enfant qu'elle a eu très jeune. Et elle le dit elle-même dans certains de ses courriers. Elle ne sait pas comment faire avec cet enfant.
C'est vrai que tout le rapport qu'elle a avec l'argent, vous le mettez aussi partagé avec André Uther. Hein,
oui.
Qui lui aussi était très intéressé par cette femme qui vendait, dont le fils vendait aussi beaucoup.
Oui.
On regardait une photo, pareil en off, d'elle jeune. Elle était d'une beauté quand même absolument transcendante.
Oui.
Suzanne Valadon. Et d'une modernité folle. Après, on parle de Colette, bien sûr,
oui.
Qui, elle, aimait le père et le fils.
Oui. Et puis surtout, enfin, je me suis pas arrêtée à ses premières amours, à Colette,
oui.
Mais plutôt à son dernier amour,
oui, qu'on connaît beaucoup
donc,
moins d'ailleurs,
Maurice Goudequet, qui avait 17 ans de moins qu'elle et qui a été son mari, oui. Qui l'a accompagnée jusqu'à la mort et qui l'aimait d'une façon
inconditionnelle,
oui, et qui a écrit un livre justement sur sa vie avec, et ça s'appelle Ma vie avec Colette.
Surtout qu'à la fin, visiblement, elle est en fauteuil roulant.
Enfin, oui,
c'était
ça.
Pas des plus
oui,
faciles,
oui.
La
oui,
vie.
Oui.
Hein.
Oui, oui.
Après, alors, un personnage dingue, que moi je ne connaissais que par les dieux du stade et ses rapports plus que troubles avec le nazisme,
oui.
Leni Riefenstahl.
Leni Riefenstahl. Alors, Leni Riefenstahl, une femme d'acier.
Même physiquement.
Physiquement, moralement.
J'ai trouvé cette fameuse photo, dedans vous parlez d'une photo où elle est en maillot de bain. Oui. En train de faire du ski. Elle a un corps absolument hallucinant.
Ah,
elle est d'une beauté, elle a une belle gueule, mais bon, elle a vraiment un corps fou.
Oui. Puis alors, elle avait un courage physique incroyable, quoi. Elle a joué dans des... Parce qu'elle était actrice au départ, puis après, elle est devenue réalisatrice, cinéaste. Elle a inventé des techniques, des techniques du cinéma qui sont toujours utilisées maintenant avec des appareils plus sophistiqués.
Extrêmement trouble. C'est vrai que ces photos de corps noir, toute la série qu'elle fait sur l'Afrique...
Sur les Numbas.
Vraiment très...
Oui. Quand on sait comment elle a fait, elle a pris ses clichés, c'était terrible.
Ouais.
Au mépris, enfin, ce qui l'intéressait, c'était les corps et c'est tout.
C'est ce qu'elle explique d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle justifie tous ses engagements politiques.
Oui.
Voilà, c'est l'esthétisme poussé au bout.
Oui, c'est ça.
Et elle est morte très vieille.
Elle est morte à 101 ans et l'année d'avant, à 100 ans, elle a épousé son fiancé qui en avait 60, donc elle avait 40 ans de plus que lui.
Et la dernière de ces fascinantes, c'est Simone de Beauvoir, donc avec Lanzmann.
Oui. Alors elle a eu beaucoup de jeunes d'amants plus jeunes qu'elle, comme Bost. Mais avec Lanzmann, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est le seul avec qui elle a vécu maritalement, c'est-à-dire dans le même appartement.
Pour moi, la grande passion de Simone, c'était l'Américain.
Oui.
Je m'étais arrêtée à ça.
Oui.
J'ai su très peu de temps l'histoire
c'était
d'amour
avec... C'était
Télégan, oui. J'ai su il y a très peu de temps l'histoire d'amour avec Lanzmann, qui est très apaisée, je trouve.
Mais elle ne pouvait pas vivre avec son Américain parce qu'il voulait la mettre dans le rôle d'une femme.
Oui.
D'une femme dans la hiérarchie patriarcale de l'époque. Et lui étant l'homme, elle la femme. Et bien que follement amoureuse, elle ne pouvait pas entrer dans ce schéma-là. C'était pas possible.
Il y a des scènes d'ailleurs, c'est pareil, on peut voir les photos. Hein. Vous allez voir, quand vous allez lire le livre, vous allez avoir envie d'aller voir les clichés. Mais où il y a des promenades au bord de la mer, où, avec Sartre, Beauvoir et... Lanzmann, amitié intellectuelle aussi,
oui,
des
c'est
trois.
Ça. Une grande, grande amitié. Et Lanzmann a été là, même s'il n'était plus son amant, il est resté auprès d'elle, il est resté son ami, son collaborateur jusqu'à la fin. Oui.
Après, on aborde les initiatrices, bon, bien sûr, Joséphine de Beauharnais.
Joséphine de Beauharnais, oui, qui a initié
Napoléon,
qui n'était pas très bien dégrossi, qui l'a initié au luxe. À la culture.
D'ailleurs, les initiatrices, elles ont un peu ça de commun, parce que bon, Beauharnais avec Napoléon, Madame de Berny qui connaît Balzac tout jeune.
Oui.
Et qui n'est pas, vous en faites pas un portrait très avec des gros mollets.
mais tout le monde peut trouver d'autres portraits qui sont aussi ressemblants. Hein. C'était un lourdeau, il était vilain, il était mal propre même.
Ouais.
Mais c'était un enfant un peu abandonné.
Ouais.
Hein. Sa mère l'avait mis en pension très jeune, à partir de l'âge de 5 ans, je crois. Et donc, il était vraiment... pas attrayant, et elle a découvert chez ce garçon de 20 ans un talent, et elle s'est vouée à lui.
Au créateur.
Donc, il avait 22 ans de moins qu'elle.
Ouais, c'est beaucoup. Hein.
Elle avait beaucoup d'enfants,
qu'elle a perdus
successivement,
tous,
les uns après les autres.
Fanny Osborne, qu'on connaît moins, et qui est donc Fanny Stevenson.
Oui, voilà.
Ouais.
Alors, elle aussi s'est vouée à Stevenson, mais elle s'est vouée à le conserver en bonne santé, parce qu'elle croyait en son génie, comme Madame de Berny.
Ouais. Oui, ce sont des femmes qui ont la foi.
Voilà, ce sont des femmes...
Toutes les deux, je les trouve beaucoup plus sincères. Après, on passe à Gala. Alors ça aussi, c'est comme Suzanne Valadon, vous y mettez, vous la rendez moins manipulatrice qu'on ne l'imagine. Vous y mettez les fêlures dans la personnalité de Gala.
Oui. Gala, de toute façon, il faut quand même bien se dire qu'on ne peut comprendre personne.
Bien sûr. Bien sûr.
Entièrement. Il y a des éclairages différents, mais bon, Gala, elle est restée auprès de Dali parce que, bon, pour des raisons qui lui sont personnelles, mais aussi parce qu'elle le maintenait, et c'était son garde-fou. Voilà. Mm. Elle était le garde-fou de Dali. Et si elle s'était retirée, quand elle meurt, il tombe dans la déchéance, dans la folie.
Tous les rapports qu'il a avec...
Il n'y a plus de Dali après Gala.
Bien sûr. Et alors après, quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, qui a mené son amour jusqu'au bout, jusqu'à la mort.
Oui.
Betty Albrecht.
Betty Albrecht, une résistante... qui a formé Henri Freinet, qui est devenu un grand résistant, le chef du réseau Combat. Et elle est morte à sa place, finalement.
Tout à fait. Les Égales, donc on parle bien sûr d'Agatha Christie, dont l'histoire de la disparition est très connue.
Oui.
Mais donc après ce mari qui ne l'aimait pas bien, elle a trouvé quelqu'un qui l'aimait vraiment.
Oui. Max Mallowan, qui avait 14 ans de moins qu'elle et avec qui elle a vécu un amour paisible et une grande amitié. Et d'ailleurs, c'est la caractéristique de tous ces amours, que ce soit les fascinants.
Oui.
Ce sont des amours qui sont très largement mêlés à l'amitié.
Après Françoise Giroud.
Oui.
On a joli portrait de Françoise Giroud. Alors vous me disiez en off que bon, c'était une menteuse, mais c'est une personnalité quand même très courageuse et qui a fait beaucoup pour la condition de la femme de nos jours.
Bien sûr.
On rencontre les collectionneuses, donc avec George Sand, Sarah Bernard et Edith Piaf, qui est vraiment la reine des collectionneuses quand même, Piaf.
Oui. Alors ces collectionneuses comme George Sand et Edith Piaf, c'était pas seulement des collectionneuses, c'était des pygmalionnes aussi.
Hein.
Surtout Edith Piaf, George Sand. Elle soutenait ses amants fragiles. Elle était à leur service pour maintenir leur santé et tout ça. Et Edith Piaf, elle révélait les hommes en tant qu'artiste. Et puis, quand c'était fait, ils n'avaient plus d'intérêt pour elle. Elle passait à un autre. C'était une
pygmalionne. C'est des femmes qui les portent. C'est vrai que George Sand... Quand à Nohant, il y avait tout le monde, il y avait Musset, même Chopin. Alors ça discutait, elles faisaient tous le monde, là. Et puis elle faisait la cuisine, elle faisait la confiture. Enfin, c'était une femme
elle s'occupait de ses enfants, elle gagnait l'argent. Elle disait, j'ai 30 personnes à entretenir, j'ai intérêt à écrire. Et elle écrivait toute la nuit. Elle faisait une partie de la nuit, elle la passait avec l'amant du moment. Et puis le reste de la nuit, elle le passait à écrire.
À écrire quand même la Marodia pendant 4 jours, c'est absolument hallucinant.
Oui.
C'est vraiment à relire, George Sand. Hein, on oublie, on la met trop un peu, je trouve, dans les scolaires. C'est vraiment quelqu'un qui a un sens du romantisme, alors exacerbé. Le livre se termine avec les tragiques, donc Marie Curie.
Oui, Marie Curie, qui a quand même tenu bon devant l'attaque de la société. Elle était veuve depuis 5 ans. Elle a été l'amante de Paul Langevin. On le lui a reproché. On a voulu l'empêcher d'aller chercher son prix Nobel. Son deuxième prix Nobel, elle a résisté parce qu'elle savait que si elle cédait, c'en était fini de ses recherches et tout ça. Donc, elle a beaucoup souffert de tout ça. Elle a été pendant 1 an dans une dépression telle qu'elle ne pouvait même plus s'occuper de ses filles. Et puis après, elle a remonté la pente et elle est revenue. Et...
Toutes, c'est des combattantes. C'est des femmes qui ne sont jamais à terre.
Oui, c'est ça.
Ou quand elles sont à terre, elles remontent très vite.
Oui.
Après Marguerite Duras, donc, avec son amour avec Yann Andrea.
Oui, alors Marguerite Duras avait 38 ans de plus que Yann Lemay. Ça a été une rencontre un peu diabolique.
Oui, et puis elle était homosexuelle. Enfin bon, c'était, c'était une
lui était homosexuel. Elle, forte de l'influence qu'elle avait sur lui, de l'admiration qu'il lui portait, a tenté de le faire revenir dans le droit chemin. Et ça, c'était pitoyable, c'est pitoyable. Donc, c'est un aspect de la vie de Marguerite Duras qui est...
Qui n'est pas très flamboyant, mais qui est aussi attendrissant.
Voilà, oui.
C'est aussi cette personnalité.
Oui,
de toute façon, c'est une personnalité, on pourrait en parler des heures, toutes les deux.
Oui.
Mais personnalité plus qu'intéressante, Marguerite Duras.
Mm-hmm.
Et le livre se termine avec le portrait de Gabriel Russier, qu'on a un peu oublié.
Oui, Gabriel Russier, dont on, enfin, man, Je ne sais pas si on connaît encore le film Mourir d'amour, oui. Mais Mourir d'aimer.
Mourir d'aimer. Ouais.
C'était avec donc c'est le couple qui ressemble le plus à notre couple présidentiel, oui. Puisque c'était un professeur de français, Gabriel Russier, et son élève avait 16 ans de moins qu'elle.
Il avait quand même 17 ans. Et quand on voit les photos de lui à 17 ans, il en fait 25. Ah, hein.
Oui,
il
avait c'était la un barbe, grand gaillard. Ouais. Oui, oui. Et donc, elle a été accusée de détournement de mineurs. Et quand elle a compris qu'elle perdrait son travail, qu'elle ne pourrait plus enseigner, c'était une jeune femme très sensible, très idéaliste. Elle s'est suicidée.
Ben heureusement que les autres n'ont pas toutes ce destin.
Non.
Mais j'invite vraiment, l'émission touche à sa fin, et j'invite vraiment donc nos auditeurs, on va peut-être en faire une deuxième, parce qu'on viendra sur les portraits. Donc, Elles ont aimé un homme plus jeune, par Jeanne Tesson, aux éditions Glyph. Jeanne, on peut vous rencontrer de temps en temps sur des salons, vous avez des projets en cours, quelque chose à nous dire avant de nous quitter?
Je vais écrire de la poésie. Mon prochain salon sera sûrement le marché de la poésie, auquel je me rends presque chaque année. Et puis après, il y aura la comédie du livre.
Moi, je n'hésiterai pas à relayer en tout cas toute votre actualité sur nos antennes. Oui. Et je vous remercie beaucoup pour ce partage qui est vraiment trop court, mais on y reviendra. On fera une autre émission, je vous promets. Merci beaucoup, Jeanne Tesson.
Merci.